Soyez les bienvenus sur les ondes de Radio Prague. Nous commençons par les informations. Des centaines de supporters ont vivement salué l'arrivée des hockeyeurs tchèques, champions du monde de hockey sur glace, ce lundi après-midi à l'aéroport de Prague. Les retrouvailles se sont poursuivies sur la place de la vieille ville, où des foules de Pragois les attendaient. La statue du deuxième président tchécoslovaque Edvard Beneš a été dévoilée devant le siège du ministère des Affaires étrangères que Beneš dirigeait dans l'entre-deux-guerres avant de succéder en 1935 à Tomáš Garrigue Masaryk. L'inauguration de la statue était critiquée par le premier ministre bavarois Edmund Stoiber qui, à la réunion du Rassemblement sud-étoile-allemand, l'a qualifiée de provocation. Le Rassemblement ne cesse de demander l'abolition des décrets du président Beneš qui ont légalisé la confiscation des biens et la perte de la nationalité aux personnes ayant adopté la nationalité allemande pendant la guerre. 51% des Tchèques estiment que l'Union européenne devrait avoir une constitution unie. 6 personnes sur 10 sont pour son adoption par référendum. 5% seulement des Tchèques ont de très bonnes informations sur le contenu du document. C'est ce qui ressort d'un sondage réalisé au mois d'avril par le Centre de recherche de l'opinion publique. Après 6 mois de délibération, la direction des chemins de fer tchèques a signé avec les syndicats le contrat collectif. Ce dernier prévoit une augmentation des salaires de 5% par an. L'année dernière, le revenu moyen était de 18 340 couronnes. Le contrat garantit une série d'avantages à plus de 70 000 employés des chemins de fer. Dimanche dernier, la police a contrôlé plus de 18 000 voitures dans le cadre de l'opération de prévention Krzysztof qui vise à réduire le nombre toujours croissant d'accidents. Les excès de vitesse et le mauvais état technique des voitures étaient les infractions les plus fréquentes des chauffeurs contrôlés. Le patriarche de l'église hussite tchécoslovaque Jan Schwarz fait face à des appels invitant à démissionner. Pour l'instant, le conseil central de l'église l'a mis hors service. Le conflit qu'il oppose à l'église s'est aggravé après ses déclarations aux médias dénonçant un financement peu transparent dans l'église Saint-Nicolas sur la place de la vieille ville. Le 16 mai était la date limite à laquelle les agriculteurs tchèques pouvaient présenter leur demande de dotation à partir des fonds de l'Union européenne. Au total, 500 millions d'euros étaient débloqués à cette fin. Un temps variable régnera les jours prochains sur la Tchéquie. Le ciel est clair à nuageux, des précipitations sont prévues pour mardi, les températures varient autour de 19 degrés. C'était les informations avec Jarka Gisublova, merci de les avoir suivies.
Faits et événements en République tchèque. Alain Slivinski.
L'actualité tchèque de ce début de semaine, c'est naturellement le titre de champion du monde que la République tchèque vient de remporter à Vienne. Dimanche soir a été une soirée de liesse à Prague et dans toute la Tchéquie. Dans l'après-midi de lundi, l'équipe est rentrée à Prague vivant de nouveau le grand triomphe. Pas étonnant, un troisième titre remporté dans la capitale autrichienne et en plus, en battant en finale, le champion en titre le Canada, berceau de ce sport que passionnent les Tchèques autant que le football. Détails, impressions, la joie que procure ce nouveau titre de champion du monde avec Guillaume Narguet dans la rubrique sportive tout de suite après cette chronique de l'actualité. Le rappel de la grande offensive française avec Alena Gabertova. Un peu de l'atmosphère du Festival de la Musique, le Printemps de Prague, avec Václav Richter, le message aux générations futures, enfoui dans un pilier du célèbre pont Charles de Prague. Une réalisation technique de l'émission due à Jarka Fikerlova. Il y a 90 ans, la grande offensive française a été lancée à 8 km d'Arras. Un acte commémoratif qui a eu lieu le samedi 14 mai à la Targette a rappelé l'opération dans laquelle la compagnie tchécoslovaque Nazdar avait été également engagée. Plus de détails avec l'ambassadeur de la République tchèque en France, M. Pavel Fischer.
Cette cérémonie est organisée depuis les décennies et elle était portée par un grand compatriote, M. Joseph Fischer, qui entretenait et cultivait la mémoire de l'engagement d'une compagnie qui s'appelait Nazdar et qui combattait justement aux côtés de l'armée française dans plusieurs endroits assez importants. Et depuis cet endroit, la Targette est devenue un haut lieu de mémoire lequel reposent des victimes non seulement de la Première Guerre, mais aussi de la Deuxième Guerre mondiale, des victimes qui combattaient sous les drapeaux français et des alliés, mais qui étaient bien tchécoslovaques. Cette offensive a été assez importante en termes d'exploits, parce que ils ont réussi à casser la ligne de front allemande, ils ont réussi à pénétrer plusieurs kilomètres au-delà, mais malheureusement ils ont perdu en même temps beaucoup de leurs effectifs, c'était à peu près 80%. Et ce qui est important à souligner, c'est un peu les idéaux qui les ont inspirés, car c'était des volontaires qui ont souhaité combattre en nom de la liberté, de la démocratie. Je crois que c'est un message qui vient vers nous à travers des décennies, à travers des siècles, avec d'autant plus d'actualité.
C'est au début du Festival international de musique Printemps de Prague que la capitale tchèque a accueilli l'unique ensemble français qui figure au programme cette année. L'ensemble Douce Mémoire, qui se consacre aux musiques de la Renaissance, a présenté au public pragois un choix de son répertoire. À l'issue d'un concert très applaudi ce vendredi à l'église Saint-Simon-Saint-Jude, Václav Richter a posé quelques questions au chef de l'ensemble, Denis Raisin d'Adre.
Commençons par le nom. Quelle est l'origine du nom de votre ensemble ?
Douce Mémoire, c'est au départ une chanson de l'époque de François Ier, dont les paroles, semble-t-il, ont été écrites par François Ier. Et donc, c'est vraiment emblématique de la Renaissance française. Ça nous permet aussi, presque, de nous mettre sous le haut patronage, puis dire, de François Ier, qui était quand même le premier grand roi français, qui s'est mis à protéger les arts, à aimer la musique, à instituer l'étude des langues latines, des langues grecques en France. C'est un roi très important pour les Français.
Quand on dit musique ancienne, on pense souvent à la musique baroque. Vous jouez la musique Renaissance. Est-ce qu'il y a une grande différence entre la musique baroque et la musique Renaissance ?
Oui, une immense différence qui est d'abord liée à des questions philosophiques, parce que pour les hommes de la Renaissance, la musique ne devait pas du tout être au service de l'homme, dans le sens où elle ne devait pas traduire les passions humaines. Elle devait magnifier plutôt ce qu'on appelait à l'époque la musique des sphères. Donc la musique sur Terre était le lointain écho de la musique qui était produite par les sphères. En plus, elle était enseignée avec les mathématiques, l'astronomie et l'algèbre, et elle ne faisait pas du tout partie de l'enseignement des humanités. C'est-à-dire, je sais pas, par exemple, la littérature ou la philosophie. Et à l'époque baroque, la musique va se mettre au service des passions humaines, ce qui va d'ailleurs susciter des réactions très très vives de la part des interprètes et des compositeurs, disant que c'était une trahison en fait. Donc il y a une immense différence, absolument.
Où est-ce que vous avez trouvé votre répertoire ? Quelles sont vos sources ?
Les sources, quand nous faisons de la musique du XVIe, sont des sources imprimées du XVIe, puisque l'édition commence en Europe en 1500, en gros. Donc, c'est la plupart des temps des sources imprimées qui existent dans les bibliothèques. Et quand nous faisons de la musique du XVe, comme c'était le cas du début du concert, ce sont des manuscrits qui se trouvent aussi actuellement dans les bibliothèques européennes. Il y a encore beaucoup de choses, par exemple, en France, à la Bibliothèque de Paris.
Vous jouez une musique très ancienne. Est-ce qu'on peut aujourd'hui encore reconstituer cette musique d'une façon authentique ?
On a, pour cette musique-là, qui est quand même du XVIe siècle, donc qui n'est pas trop éloignée par rapport à des musiques du XIIe ou XIe siècle, énormément de témoignages, beaucoup de traités de musique, des traités sur les instruments, beaucoup d'iconographies qui nous renseignent, beaucoup de textes aussi. Les poètes ont beaucoup parlé de musique aussi. Donc ce qu'il faut, c'est s'imprégner de tout l'entourage à la fois littéraire, pictural, artistique de l'époque pour avoir essayé de reconstituer quelque chose. Mais évidemment, les partitions sont parcellaires et nous sommes obligés, par exemple, de faire beaucoup d'ornementation, mais nous avons des traités qui nous parlent de l'ornementation.
Sous l'empereur Rodolphe II, donc sous la Renaissance, Prague était un grand centre culturel et musical. N'avez-vous pas envie d'élargir votre répertoire à la musique d'Europe centrale ?
Nous allons le faire, puisque en 2006, début 2006, nous allons faire ici un concert à Prague, puis en France, de musique pour Rodolphe II, avec des chanteurs tchèques et des musiciens, des instrumentistes de Douce Mémoire. Donc c'est vraiment un projet qui va se faire. Je suis déjà venu deux fois à Prague pour faire des recherches dans les bibliothèques et me faire une idée. Donc nous allons faire de la musique de Philippe de Monte, qui était le maître de chapelle de Rodolphe II, mais aussi des chanteurs, compositeurs qui travaillaient à la chapelle, comme par exemple Luitton et Jacob Reignard.
Lors des travaux de restauration de divers bâtiments anciens, on retrouve très souvent des messages des générations antérieures, des bâtisseurs, des ouvriers, des autorités de l'époque. Cette tradition, la mairie de Prague a décidé de la suivre en déposant un message destiné aux générations futures dans un des piliers du pont Charles, l'un des monuments historiques les plus célèbres de la capitale tchèque. Le pont Charles est l'un des symboles les plus connus de Prague. Il enjambe la rivière Vltava dans la partie historique de la ville et comme il se doit pour un pont datant du XIVe siècle, il a résisté à maintes inondations et a dû être maintes fois réparé et reconstruit. La dernière restauration date du siècle dernier, mais elle n'avait pas été complète et elle continue au troisième millénaire. Ce dimanche de la Pentecôte, l'adjoint au maire de Prague, Jan Bürgermeister, a déposé dans le neuvième pilier du pont Charles un cylindre en acier inoxydable renformant un message pour les générations futures. Une initiative qui reprend d'anciennes pratiques prises après la découverte sous ce neuvième pilier du pont des fondations datant de l'époque de Charles IV, roi de Bohême et empereur romain, qui en avait ordonné la construction. Jan Bürgermeister ne cache pas son émotion. Il est nécessaire de rappeler l'importance du pont Charles, de se rendre compte que nous mettons à jour des travaux qui ont eu lieu il y a des siècles, en découvrant que les fondations originales se sont conservées, et, après la reconstruction, nous déposons un message pour les futures générations, en espérant que peut-être dans 500 ans, quelqu'un le retrouvera. L'adjoint au maire de Prague, Jan Bürgermeister, nous explique ce que contient le cylindre déposé dans le pilier du pont Charles. Nous y avons placé toutes les informations sur Prague, sur la localité, sur son histoire et celle du pont Charles. Il renferme aussi le texte de la constitution tchèque, des informations sur l'administration de la ville, mais aussi des choses de la vie courante, comme par exemple le menu d'un restaurant pragois. Nous voulons offrir le plus d'informations possibles sur la vie de la ville à l'époque contemporaine et nous espérons qu'elles seront conservées pendant des siècles dans les fondations du pont Charles. Ajoutons encore que le 9e et le 10e pilier du pont Charles ont été endommagés lors des dernières grandes inondations qui ont meurtri Prague en 2002 et qu'ils n'avaient jamais été réparés, à la différence des autres qui avaient été reconstruits après les grandes inondations du 19e siècle. C'était donc Faisait événement, l'actualité est maintenant place à l'actualité sportive.
Sport en République tchèque. Guillaume Narguet.
Salut à tous les amateurs de sport. La République tchèque a été sacrée championne du monde de hockey sur glace pour la 5e fois de sa courte histoire dimanche à Vienne, en battant en finale le Canada 3-0. En venant à bout du pays, berceau du plus rapide des sports collectifs, les Tchèques ont reconquis un titre qu'ils avaient abandonné en 2002. Aussitôt le match terminé, peu avant minuit, des milliers de supporters ont envahi les places et avenues de toutes les villes du pays pour manifester leur joie. Quatre ans après leur dernier sacre, les Tchèques ont enfin recoiffé la couronne de champion du monde. Quatre ans, une éternité pour un pays rassasié de victoires entre 1998, année de l'historique médaille d'or olympique de Nagano, et 2001, dernière levée d'un triplé doré au championnat du monde. Depuis et après le surprenant intermède slovaque en 2002, c'était les Canadiens, considérés comme arrogants par les joueurs et fans tchèques, qui régnaient sans partage sur la scène internationale. Dimanche, les partenaires de Jaromír Jágr ont donc mis fin de la plus belle des manières à l'hégémonie des joueurs à la feuille d'érable. Avant d'en arriver là, les Tchèques auront toutefois souffert et sont même souvent passés par une belle porte, que ce soit lors de la séance de pénalty contre les États-Unis en quart de finale ou lors de la prolongation contre la Suède en demi-finale. Une donnée que ne contredisait d'ailleurs pas celui qui est considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de l'histoire du hockey tchèque, l'ailier Jaromír Jágr.
J'ai eu la confirmation de ce que j'ai toujours prétendu, à savoir que pour gagner un tournoi comme le championnat du monde, il faut avoir la chance de son côté. Nous en avons eu par exemple lors du quart de finale contre les États-Unis, que nous avons remporté après avoir été menés 2-0. Si nous n'avions pas égalisé et gagné au tir au but, qui ressemble toujours plus ou moins à une loterie, aujourd'hui cela ferait 2 jours que nous serions rentrés à la maison. Nous serions sans doute critiqués et personne ne ferait la fête. Mais le destin nous a été favorable et a voulu que nous célébrions ce titre.
Si les Tchèques disposaient d'un arsenal offensif impressionnant avant le début de la compétition, en revanche, de nombreux doutes planaient sur les réelles capacités de la défense et du gardien de but, dont le rôle est primordial en hockey. Finalement, en finale, après une ouverture du score rapide, c'est justement l'arrière-garde qui était le grand artisan du succès en relevant le défi physique proposé comme de tradition par les puissants attaquants canadiens. L'intransigeant entraîneur Vladimir Ružička avait donc toutes les raisons d'être satisfait.
Nous avons porté une attention particulière à notre jeu défensif pendant toute la durée de la compétition. La plupart des garçons savaient qu'arriver jusqu'en finale n'est pas simple du tout, que cela ne doit pas se reproduire chaque année, et c'est ce qui explique notre manière de jouer très sérieuse. Les joueurs ont su prendre leurs responsabilités. Bien sûr, il faut aussi toujours une part de réussite pour gagner. Et cette année, nous en avons eu, même si en général, la balance penche en faveur de l'équipe qui le mérite le plus. Il me faut vous remercier, vous les journalistes, car vous n'avez pas arrêté d'écrire que la défense était notre point faible et qu'il était indispensable de nous améliorer dans ce domaine, si nous voulions espérer quelque chose. Vous savez bien que les joueurs lisent les journaux, et du coup, ils ont voulu prouver qu'ils savent également défendre. Mais il est vrai que si on se retourne sur le passé, on se rend compte que nous avons toujours obtenu de bons résultats lorsque nous avions un bon gardien et une bonne défense. Je tire mon chapeau aux garçons pour ce qu'ils ont réalisé. Ce fut un tournoi très difficile. Si vous regardez bien, depuis notre première victoire, 3-1, difficile, contre la Suisse, tous les matchs que nous avons disputés, du premier au dernier, ont été très serrés, même contre des équipes supposées plus faibles.
Côté canadien, même si la défaite, l'ampleur du résultat et la domination tchèque furent bien difficiles à accepter, comme en témoigne la bagarre provoquée en toute fin de match, on reconnaissait cependant également la valeur de l'adversaire du jour, à l'image du capitaine Ryan Smith.
Vous savez, à chaque fois que vous perdez en finale, c'est une énorme déception. Tout le monde veut représenter dignement son pays, alors forcément une deuxième place, ce n'est pas suffisant pour nous. Mais nous devons reconnaître que les Tchèques ont fait un très bon match, ils ont très bien contré nos attaquants. De notre côté, nous ne sommes jamais réellement parvenus à bien nous installer dans leur zone offensive et à nous placer dans de bonnes positions pour marquer. Et puis, leur gardien Vokoun a de nouveau été excellent aujourd'hui. Il s'est interposé sur les rares occasions que nous avons eues. Il a vraiment fait un grand tournoi.
En 1996, la République tchèque indépendante avait remporté le premier titre mondial de son histoire. 9 ans plus tard, ce nouveau sacre a donc pour beaucoup une valeur symbolique. Pour les frères Tomáš et František Kaberle également, comme en témoigne František.
C'est un titre très spécial car nous l'avons gagné avec mon frère Tomáš en étant dans la même équipe. En plus, avant nous, notre père avait également remporté une médaille d'or à Vienne. C'est donc un grand jour pour la famille. Concernant la finale, les Canadiens nous ont mis sous pression par instant, mais dans l'ensemble, je pense que nous avons fait un bon match au cours duquel nous nous sommes montrés très solides. Le premier but inscrit en début de partie nous a fait beaucoup de bien, et après, nous sommes restés bien en place et notre organisation n'a pas permis aux Canadiens de se procurer beaucoup d'occasions sérieuses.
Aussitôt, le trophée de champion remis au capitaine David Výborný, à Prague et dans tout le reste du pays, des milliers de supporters se sont emparés de la rue pour un interminable feu d'artifice et un concert de klaxons. Lundi, en fin d'après-midi, à leur retour, les joueurs ont été accueillis comme des héros sur la place de la vieille ville. « Merci les gars », a scandé le peuple radieux. Merci les gars, donc, et merci à vous aussi, chers auditeurs, pour votre attention. Restez en notre compagnie, tout de suite la musique.
twilight tide steals across the meadows of my heart. High up in the sky.
Merci d'écouter un peu de musique quand même avec Magdalena Segertova. Aujourd'hui, je vous présenterai le chanteur de jazz et de swing, Ladia Kendl. Et puis avec le groupe tchèque Marcias, nous prendrons la température des années 70.
You wander down the lane and far away, leaving me a song that will not die. Love is now the stardust of yesterday, the music of the years gone by.
Nombreux sont ceux qui voient en Ladia Kendl, que vous venez d'entendre, et qui fête ce lundi ses 60 ans, le Frank Sinatra tchèque. Sa voix rock et ses interprétations des célèbres mélodies de jazz lui ont valu un succès international. Originaire de la Moravie, Ladia Kendl a chanté depuis 1971 jusqu'au début des années 90 à l'étranger, aux États-Unis, en Norvège, en Suisse et en Allemagne. Il s'est produit notamment sur des bateaux de croisière américains. Après avoir guéri d'un cancer 5 ans après la révolution de velours, Ladia Kendl voit de nouveau décoller sa carrière, mais cette fois-ci dans son pays. Le 25 mai prochain, à l'occasion de son 60e anniversaire, il sera en concert à Brno, en Moravie du Sud.
Najduli čas postavim dům. Chtěl bych mít dům jako hrad, bláznivej dům. Měl by to být val silnej zdí, venku zlej pes, uvnitř jazz. Tam zvenčí nechci nic mít, tím mý snad být. Venku zlej pes, na bráně rez, se mnou jen jazz. A já hledáme dívku, může se za nás dva dát. Přednost má mlčenlivá, chci jí k vášni své vést. Musí jak já.
C'était Ladia Kendl. Remontons maintenant presque 30 ans en arrière, à la fin des années 1970, quand a été fondé le groupe folk-rock pragois Marcias.
Nejtenčí vlásek, co v kartáči mám, se vedrem nehejbá. Je to tím, že jen leží, snad 100 litrů tuše a syrupu z jablek si dnes večer na svou hlavu nalejt dám. Papírem ať mě vláčí ten kůň nohatej, vláčí mě městem po kostkách.
La semaine dernière, Marcias a donné un concert au Palais Acropolis à Prague et lancé un CD composé de ses meilleures chansons intitulé Marcias 1978-2004. Sa musique, influencée par le blues, le reggae et d'autres genres encore, faisait sous le communisme partie de ce courant marginal de la musique officielle, recherché par les gens à la pensée libre. Écoutez sa chanson Avec lui, datant de la fin des années 80, et dédiée au cinéaste espagnol Luis Buñuel. Et elle est interprétée par la chanteuse Zuzana Mechnova, figure de proue du groupe Marcias.
Kdo
Le groupe Marcias dans le magazine musical de Radio Prague. Notre programme se termine. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, and at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, and at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 0900 hours UTC on 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, or at 2130 hours on 9880 and 11600 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz, and at 1600 hours on 5930 and 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz and 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Southwest Asia at 0330 hours, listen on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz.